Merci de passer la soirée sur BFM TV. C'est une enquête qui a eu l'effet d'une déflagration dans le monde hospitalier. Depuis quelques jours, les messages de femmes victimes de violences sexistes ou sexuelles déferlent sous le hashtag #MeTooHôpital. Celle qui a libéré la parole, c'est l'infectiologue Karine Lacombe, celle qui lui a laissé l'espace pour le faire. C'est Anne Jouan. Bonjour Anne Jouan. Vous êtes journaliste indépendante, autrice de l'enquête MeToo à l'hôpital, Patrick Peloux dans la tourmente pour Paris Match. Cette enquête, on la voit s'afficher, les masques tombent avec donc la photo de Patrick Peloux, le célèbre urgentiste décrit comme un prédateur sexuel par Karine Lacombe. En fait, c'est pas la première fois qu'elle parle de ce médecin urgentiste, qu'elle parle de ses mots, qu'elle parle de ses gestes déplacés. Mais jusqu'ici, elle ne l'avait pas nommé. Et c'est vous qui avez mis un nom et qui avez mis un visage.
Oui, en fait, Karine Lacombe évoque ce médecin qu'elle qualifie de prédateur depuis plusieurs années. En réalité, elle en parle dans une interview au Monde, elle en parle au moment de la sortie de son livre. Elle lui consacre quasiment un chapitre. Et finalement, quand on recoupe les dates, les lieux et qu'on est un petit peu attentif, on comprend assez rapidement qu'il s'agit de Patrick Peloux, même si elle ne mentionne jamais son nom dans son livre. Et quand je l'ai appelé il y a quelques jours pour cette enquête et que je lui ai demandé s'il s'agissait bien de Patrick Peloux, elle m'a répondu oui.
Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, on découvre dans cette enquête, elle a travaillé avec lui au début des années 2000 à l'hôpital Saint-Antoine, et on comprend en fait que tout le monde était au courant de ses agissements, que c'était un secret polichinelle. Il avait cette réputation.
Oui, mais c'est souvent le cas dans ces affaires, vous savez, que ce soit à l'hôpital ou dans d'autres milieux. Finalement, ce sont toujours des secrets de polichinelle, mais c'était aussi un secret de polichinelle dans les médias. Il faut quand même le dire. Et quand le livre de Karine Lacombe sort, le chapitre 6 est à disposition de tout le monde. Elle est interrogée sur plusieurs plateaux de télévision et à la radio, et les gens la questionnent sur ce chapitre, et personne ne lui demande l'identité de l'urgentiste dont elle parle dans ce chapitre. Donc c'est pour ça que le terme libération de la parole, je le trouve un petit peu gênant, puisque c'est surtout les oreilles qu'il faut déboucher et apprendre à entendre et apprendre à écouter. On dit aujourd'hui les femmes parlent, mais en fait elles ont toujours parlé. Une victime, que ce soit un homme, un enfant de violence sexuelle ou une femme, même s'il ne dit pas explicitement « j'ai été violée » avec ces mots-là, il le sous-entend. Quand un enfant a mal au ventre ou refait pipi au lit en revenant de week-end chez son grand-père, il ne vous dit pas « j'ai été violée par papy », mais il vous signifie quelque chose. Donc les femmes parlent, mais le problème, c'est plutôt comment elles sont entendues et perçues, et comment en face, on est apte ou non à écouter ce qu'elles ont à dire.
Anne Jouan, je reviens vers vous dans un instant. Roselyne, vous les aviez entendues, vous, ces accusations contre Patrick Peloux ?
J'ai envie de dire enfin, merci à Anne Jouan, merci à Karine Lacombe de lever une omerta terrible sur les violences sexuelles qui sont systémiques. Non pas seulement à l'hôpital, qui sont systémiques dans les milieux de la culture, dans les milieux du pouvoir. Chaque fois qu'il y a pouvoir, exercice du pouvoir, il y a des violences sexistes.
Chaque fois qu'il y a exercice du pouvoir par des hommes et des milieux masculins.
Il y a des violences sexistes, sexuelles, sexualisées, peu importe comment on les décrit. Alors évidemment, l'hôpital a été préservé en quelque sorte de ce mouvement MeToo, parce que c'est aussi un lieu dans lequel on amène ses proches, on les protège, on les soigne, et parfois avec d'un côté des gens qui exercent des violences sexistes et sexuelles, mais des gens aussi qui vont soigner votre papa, votre maman, et vous avez un sentiment, je dis pas de dépendance, mais
De reconnaissance,
ouais. Et c'est normal. Et puis, dans ce milieu, effectivement, qui est un milieu très hiérarchisé, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les personnels techniques, on sait aussi que votre carrière dépend
de ces
personnes qui détiennent le pouvoir et qui peuvent exercer des violences sur vous. Donc tout ça, on le sait et on a beaucoup de mal à le dire. Et moi, je trouve que le boulot qui est fait par cette journaliste, par Anne Jouan, et par Karine Lacombe, est un boulot vraiment absolument nécessaire. Moi, je me sens complètement à leur côté, et ce que je pourrais faire, moi, mon petit niveau, je le ferais volontiers.
On va revenir dans un instant, Anne Jouan, avec vous, sur la suite de cette enquête, parce qu'effectivement, Patrick Pelous, c'est l'arbre qui cache la forêt, et vous avez recueilli énormément d'autres témoignages, d'autres femmes concernant d'autres médecins. Mais Roselyne, j'aimerais juste qu'on revienne sur ce qu'il s'est passé avec Patrick Pelous, parce qu'en 2008, il est écarté des urgences de Saint-Antoine,
voilà,
son fief depuis 15 ans. C'est vous qui l'avez écarté. Vous avez appelé le patron du SAMU de Paris en disant prends Patrick Pelous. Pourquoi vous étiez ministre de la Santé à l'époque?
Pour être très clair, c'est que je n'ai pas d'accusation de violence sexuelle. J'ai l'accusation d'un management déficient. Anormal, avec un management harcelant, humiliant. Et tout ça est très augmenté par le fait que Patrick Pelous, qui convoitait le poste de chef des urgences de Saint-Antoine, n'obtient pas cela parce qu'il n'a pas les qualifications nécessaires. C'est le moment où on universitarise. On fait vraiment un vrai service hospitalier dans les urgences. Donc, il y a quelqu'un qui a les titres, en l'occurrence le professeur Dominique Pateron, qui prend la tête du service des urgences de Saint-Antoine. Et à ce moment-là, dans la première réunion de service, les aides-soignants vont dire « Nous, on ne veut plus travailler dans ce contexte qui a été créé par Patrick Pelous. » Et pour moi, c'est un vrai problème. Oui, ce sont des aides-soignantes qui disent, voilà.
Mais elles ne parlent pas de violences sexistes ou sexuelles.
Alors, elles ne parlent pas à ce moment-là, mais on est il y a 15 ans, hein,
2008.
Il y a 16 ans. Ouais. On est en 2008. Elles ne parlent pas de violences sexuelles. Elles parlent de management harcelant et humiliant.
Après coup, vous dites que c'est parce qu'elles n'osaient pas en parler
à
l'époque.
Donc, moi, à ce moment-là, ce que je veux, c'est protéger les agentes qui expriment ces violences et je ne peux pas déclencher d'article 40, puisqu'il n'y a pas de déclaration de violence sexuelle.
Vous sentez quand même qu'il y a quelque chose, derrière ces signalements?
Depuis très longtemps, je pense que chaque fois qu'on parle de quelqu'un qui est humilié, ça débouche. Je ne dis pas que ça l'a fait à ce moment-là. Hein. Je ne peux pas apporter des preuves à ce moment-là. Mais on sait très bien que d'humilier quelqu'un, c'est quelque part l'emmener vers le chemin où on peut tout exiger d'elle, ou parfois de lui d'ailleurs. Et donc, ce que je veux, c'est sortir de cette affaire-là, d'abord pour protéger les personnes, et puis aussi pour permettre au service des urgences de Saint-Antoine, qui est un service important, de fonctionner. Parce qu'à partir du moment où un des médecins de Saint-Antoine se met en arrêt maladie, ça devient extrêmement difficile.
Et dans les années qui ont suivi cette éviction, cette exfiltration, si je reprends votre terme, vous avez eu écho d'accusations.
Ça a mis un moment, mais ce qui se passe, c'est que effectivement, il y a aussi un contexte, c'est le mouvement MeToo qui démarre, qui dit des choses, et à ce moment-là, les bruits commencent à venir un petit peu partout. Moi, à ce moment-là, j'ai quitté le ministère, les fonctions politiques, je travaille dans une rédaction, et effectivement, j'entends tout ça, ça fait une sorte de puzzle qui se met en... qui se reconstitue. Je donne l'alerte à un certain nombre de rédactions à ce moment-là, mais je dis, mais arrêtez d'inviter cette personne. Mais on dit oui, mais c'est un bon client, il est disponible à toute heure du jour et de la nuit, alors chaque fois, puis il tape sur le gouvernement, ce qui est quand même une bonne façon d'être invité sur une rédaction. Donc voilà, il coche toutes les cases et on me fait savoir que il faut continuer à l'inviter.
Alors il y a ça aussi, Anne Jouan, parce que on a un chef de service qui a une prestance au sein de l'hôpital, qui a une position, et puis c'est une figure médiatique, comme l'a rappelé Roselyne après l'attentat islamique contre Charlie Hebdo, pour lequel il tenait une chronique médicale. Il est devenu une personnalité médiatique, invitée de tous les plateaux télé. Est-ce que sa notoriété, Anne Jouan, a été un obstacle à la révélation des faits?
Oui, bien sûr, c'est déjà difficile de parler de ces sujets. dans le monde de l'hôpital, certainement encore plus, et face à une personne qui devient une icône et qui est extrêmement blessée, effectivement, après le, qui pleure en direct à la télévision après l'attentat islamiste du 7 janvier. Pour les femmes, parler devient très compliqué. Donc oui, bien sûr, tous ces événements, mais il y a également la canicule de 2003 qu'on oublie, participent de l'impunité de Patrick Peloux. Il y a un point quand même que je voudrais préciser. Quand Roselyne Bachelot explique qu'elle l'a exfiltré des urgences de Saint-Antoine parce qu'il avait un management brutal et humiliant et que les soignantes ne voulaient plus travailler avec lui, il faut quand même bien préciser qu'il est assez rare, moi je l'avais personnellement jamais entendu, qu'un ministre, une ministre de la Santé s'occupe personnellement de l'exfiltration d'un médecin parce que les personnes qui travaillent avec lui ne le supportent plus et le trouvent brutal. Si le ministre de la Santé devait s'occuper de tous les médecins à l'assistance publique hôpitaux de Paris qui ont un management brutal et avec lequel les autres ne veulent plus travailler, je pense que ce ministre aurait du travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à faire uniquement ça. Donc là, pour l'histoire de Peloux et l'exfiltration dont parle Roselyne Bachelot, on est quand même sur un cas extrêmement rarissime.
Comment vous l'expliquez d'ailleurs, Roselyne, que vous ayez dû intervenir directement, personnellement ?
Pourquoi je suis intervenu personnellement ? D'abord parce que des femmes le signalent, la directrice de Saint-Antoine le signale, le service des urgences de Saint-Antoine est vraiment un gros service d'urgence, et moi je dois protéger ces femmes et je dois, je le répète, permettre le fonctionnement. On connaît les difficultés des services d'urgence. Quand on a un service d'urgence qui ne fonctionne plus parce que vraiment la situation est extrêmement difficile, et que d'ailleurs les directions, enfin la direction me saisit, hein, parce que quelquefois il faut reconnaître que ça ne remonte pas jusqu'au cabinet et ça ne remonte pas jusqu'au ministre. Tout ça, ça reste en infra. Là, ça me remonte, et parce que ça me remonte, je prends les décisions qui vont bien. C'est ça. Mais Anne Jouan tout à fait raison de dire qu'en
c'est
général,
rarissime.
ça se traite à l'échelon infraministériel.
Et ça se traite pas au niveau gouvernemental.
Ça se traite à l'échelon infraministériel.
Ça se traite pas du tout, parfois.
Ou ça se traite pas du tout.
Tu as raison, ouais. Pablo, et ça se traite pas du tout. Mais,
Alors, justement, c'est un cas exceptionnel et particulier, Patrick Peloux, mais je disais tout à l'heure, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en fait, on se rend compte avec votre enquête, Anne Jouan, qu'il y a énormément de femmes à tous les postes, hein, dans les hôpitaux, qui ont été victimes de ce type d'agissement. Et la prise de parole de Karine Lacombe, alors vous dites elle n'a pas libéré la parole, c'est juste que maintenant on écoute les victimes. Elle se manifeste aussi sur les réseaux sociaux avec ce hashtag #MeTooHôpital. D'ailleurs, je crois savoir que Karine Lacombe a eu sa boîte mail qui a explosé de messages pour dire on a vécu la même chose. Écoutez le récit d'une victime qu'on a pu recueillir.
Alors que je débutais tout juste ce stage, il y a un médecin, un supérieur hiérarchique, qui a commencé à me prendre à part pour me poser des questions personnelles directement, à savoir notamment, je pense qu'il a demandé si j'étais célibataire avant de demander mon prénom. Et il m'a ajouté sur Facebook très très rapidement ensuite. Et puis en fait, finalement, après les paroles, s'en est suivi des gestes à type de cuisse qui était touchée, il me claquait la cuisse, il pouvait dans certaines situations me toucher le dos par surprise le matin pour me dire bonjour en disant mais c'est juste pour dire bonjour, t'inquiète pas, ou il pouvait me prendre le poignet avec force lorsque je refusais de le suivre pour le petit déjeuner par exemple.
Anne Jouan, dans votre enquête, vous parlez de l'hôpital, je vous cite, hein, comme d'un monde féodal. Et vous citez un chirurgien qui parle d'une espèce de droit de cuissage entre rangs hiérarchiques.
Oui, tout à fait. Effectivement, depuis que Karine Lacombe a publiquement dit qu'il s'agissait de Patrick Peloux dans son livre, beaucoup de femmes parlent. Mais j'observe aussi, et j'ai reçu des témoignages et des appels téléphoniques d'hommes à l'hôpital qui expliquent que eux aussi ont subi ce genre de choses. Et je pense qu'il ne faut pas taire ce qui est un MeToo gay aussi de l'hôpital, avec un chirurgien qui raconte par exemple que quand il est au bloc opératoire en train d'opérer un patient, il entend derrière lui une penseuse et un interne. Et il comprend, je cite son expression, que les deux ont parié son cul et que cet interne va lui faire beaucoup de remarques, beaucoup de propositions, alors que lui-même est en train d'opérer un patient. C'est des médecins qui racontent, quand ils sont jeunes internes, que le supérieur, en l'occurrence le chef de service, leur met la main dans le caleçon. Et effectivement, on est dans un univers féodal dans lequel le chef vous valide vos stages quand vous êtes interne, et que vous soyez homme ou femme, jeune homme ou jeune femme, cette pression et cette féodalité est extrêmement importante et ne favorise pas du tout l'expression d'une parole. Par ailleurs, quand les médecins parlent, ils sont très souvent punis. L'enquête concernant le MeToo à l'hôpital et le cas de Patrick Peloux a été possible pour moi parce qu'on a fait une enquête précédemment, au mois de janvier, concernant le CHU de Rennes et le service de neurochirurgie, dans lequel deux anciens chefs de service sont accusés de maltraitance, harcèlement moral et sexuel par neuf soignants qui ont eu le courage de témoigner dans Paris Match à visage découvert au mois de janvier. Et les deux médecins accusés ont décidé d'attaquer ces neuf soignants à l'ordre des médecins et à l'ordre des infirmiers qui instruit la plainte comme cela se fait. Et l'instruction est donc en cours, mais ils ont tous été convoqués, et certains même deux fois, par l'ordre des médecins, qui va bientôt se prononcer pour savoir s'il les poursuit en chambre disciplinaire, sachant que l'ordre des médecins peut aussi décider de poursuivre les médecins accusés de harcèlement. Donc on voit bien ce qu'il coûte à ceux qui osent prendre la parole, et c'est donc quelque chose qui est extrêmement compliqué. Karine Lacombe, vous aurez remarqué, ouais, elle est PUPH, elle a plus d'une cinquantaine d'années et elle parle, elle est chef de service.
Elle est chef de service aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'elle peut se permettre aussi de parler. C'est passionnant votre enquête, parce que vous décrivez les rouages, la façon dont on arrive dans cette relation de domination, d'humiliation, de violence. Vous dites, l'hôpital est un monde dans lequel la maltraitance est institutionnalisée. Et Rosine, j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que Anne Jouan dit, il faut en baver pour devenir médecin, ça fait partie des études de médecine. Dès les études, vous-même, est-ce que vous l'avez vécu, vous, ça, cette maltraitance dès les études ?
Pour remettre le contexte, c'est que l'hôpital, c'est un monde de la souffrance et de la mort. Et que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à affronter, d'autant que notre, et je dirais presque curieusement, dans nos sociétés modernes, la mort et la souffrance sont de moins en moins acceptées. Il y a des gens qui arrivent dans l'hôpital, ils ont jamais vu un cadavre. Ils ont jamais vu quelqu'un mourir. Parce que on ne meurt plus chez soi. On meurt à l'hôpital. Le choc que cela peut représenter et les levées d'inhibition qui sont consécutives à ce choc que l'on vit quand on rencontre pour la première fois quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui souffre, la souffrance des gens qui meurent, qui sont malades, la souffrance des familles qui sont à leur côté, c'est un traumatisme absolument incroyable. Et il se passe des phénomènes psychologiques qu'on ne prend pas suffisamment en compte. Et alors, c'est pour ça que je veux mettre un contexte là dans cette affaire. Et pour beaucoup de gens qui sont à l'hôpital depuis des générations, cette grivoiserie, cette chose...
Ce sont les termes d'ailleurs qui sont employés par Patrick Peloux.
Oui, et qui sont inacceptables.
J'ai été grivois, et on en rigolait, et c'était une autre
époque. Cette façon de se moquer, de faire un pied de nez à la mort, ça a été une façon de la supporter.
Oui.
Mais maintenant, ça ne peut plus durer.
Ça ne peut plus durer. Merci Roselyne, vous restez bien évidemment avec nous. Et merci Anne Jouan pour cette enquête donc, qui est à retrouver dans Paris Match.